Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invitée est normalement prof d'économie dans un lycée de Seine-Saint-Denis, mais elle est en congé et pour une bonne raison, à savoir qu'elle est candidate à l'élection présidentielle ici en France. Nathalie Arthaud, vous êtes la candidate de Lutte ouvrière. Merci et bienvenue dans l'entretien de France 24.
Bonjour.
Alors on va commencer par un sujet qui agite beaucoup les états-majors politiques, à savoir l'abstention. Un sondage tendrait à prouver qu'elle sera peut-être plus importante qu'en 2002. On se souvient évidemment de ce qui s'était passé à cette époque. Pour vous, est-ce un vrai sujet?
C'est évident dans les classes populaires qu'il y a une tentation, évidemment, de l'abstention. Parce que, vous savez, voilà, les travailleurs et les plus pauvres, ils ont quand même été à chaque fois déçus hein, par les gouvernements dirigés par le Parti socialiste, par la gauche qui prétendait représenter leurs intérêts. À chaque fois, ils ont fait l'expérience hein, amère eh bien que quand on changeait de gouvernement, et y compris quand c'était la gauche au pouvoir, eh bien finalement la politique ne changeait pas. Et pour eux, eh bien c'était le chômage, les bas salaires, les petites retraites, la galère de la vie quotidienne. Donc beaucoup se disent, oui, que voter ne sert plus à rien et sont tentés par l'abstention.
Ça sous-entend que pour vous, l'abstention est plus à gauche.
L'abstention, elle est dans les classes populaires, oui, et dans la classe ouvrière à commencer, ça c'est vrai. Et c'est sans parler de ceux qu'on a exclus carrément du vote, hein, des travailleurs immigrés, des travailleurs étrangers à qui on ne donne pas le droit de vote et qui de fait sont exclus. Mais oui, l'abstention est davantage chez les ouvriers, les chômeurs, les plus pauvres, qui encore une fois se sentent abandonnés, que ce soit par les uns, que ce soit par les autres. Et bon, ils ont de quoi, ils ont de quoi, c'est vrai, parce que y compris quand les gouvernements de gauche se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire reculer le chômage? Rien. Rien, ils ont laissé les licencieurs continuer, ils ont laissé la précarité exploser, autant sous la gauche que sous la droite. Donc oui, il y a de quoi se dire que vraiment, finalement, c'est une duperie hein, électorale. On voit les uns, les autres se remplacer, mais la même politique qui est menée, au profit toujours des plus riches. Mais nous, nous leur disons que dans les élections, on peut quand même s'exprimer, on peut quand même dire ce qu'on pense, dire notre colère, et puis dire que bah, justement, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes de ces changements gouvernementaux et que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait effectivement des luttes, qu'il faudrait rendre les coups au patronat, à ceux qui nous font subir la situation et la crise.
Mais alors comment ça se fait que ces mécontents, vous n'arrivez pas à les attirer? Vous êtes estimé autour de 0,5% dans les sondages, même chose pour le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Comment est-ce que vous expliquez que l'extrême gauche n'arrive pas à capter ce mécontentement que vous décrivez?
Parce que bah nous exprimons une colère non seulement consciente, mais en plus une colère qui débouche sur l'idée qu'il faut collectivement changer les choses et qu'il faut eh bien, être conscient que justement on peut le faire. Autant individuellement, on est confronté à son patron et on ne peut pas faire grand-chose, c'est bien difficile de se défendre, autant collectivement, au travers des grèves et des manifestations, on peut le faire. Mais voilà, force est de constater que ça fait bien des années qu'il n'y a pas eu de grève victorieuse, qu'on n'a pas réussi à faire reculer effectivement les gouvernements sur la retraite. Le gouvernement Sarkozy n'a pas bougé d'un iota. Donc tous ces échecs-là, tous ces reculs, aujourd'hui, ils sont subis. Et on n'est qu'une minorité, oui, à lever ce drapeau des luttes et à se dire que, eh bien, il n'y a pas de raison de se résigner, que ce qu'on a été capable de faire en mai 68 ou en 36, on est capable de le refaire aujourd'hui. Et c'est cela qu'il faudrait. Donc voilà, c'est cette conscience-là qui aujourd'hui manque. Hein, mais nous militons pour qu'elles reviennent.
Mais
Et
pourquoi est-ce que vous n'êtes pas audible? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est
on
une
est.
question de personnalité? Évidemment, vous succédez à Arlette Laguiller, Monsieur Poutou succède à Olivier Besancenot, qui avait réussi à obtenir des résultats à 4-5%. Est-ce que vous pensez que c'est ça ou est-ce qu'il y a une résignation? On se dit, de toute façon, ça sert à rien.
Non, je ne crois pas que ce soit ça, parce que, y compris quand moi je dis, il faut interdire les licenciements. Voilà ce qu'il faudrait faire dans cette période de crise, dans cette période où il y a une hémorragie. Où c'est toutes les entreprises, tous les grands groupes hein, capitalistes ont licencié, fermé des sites et mis sur le carreau des travailleurs. Donc il faudrait interdire les licenciements, qu'il faudrait obtenir que les salaires augmentent au même rythme que les prix. Comment accepter que tous les prix explosent et que les salaires et les retraites ne suivent pas? Donc ces revendications-là, ces objectifs-là, ils sont partagés, ils sont compris. Beaucoup de travailleurs se disent oui, bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait faire en sorte que ce soit ceux qui dirigent l'économie, ceux qui ont de l'argent, les plus riches, les capitalistes, qui payent pour les aléas de cette économie, pour les ratés de cette économie, eux, ils ont de quoi amortir la crise. Hein, ils ont tout un matelas. Donc, ça serait à eux de prendre sur leur profit et d'assurer les salaires et les emplois. Donc, ces idées-là, je peux vous dire qu'elles passent, elles sont entendues,
Mais
elles
c'est
sont
Monsieur Mélenchon
comprises.
aujourd'hui qui les incarne.
La réalité, c'est quand nous disons que cela, il va falloir aller l'arracher. par nos grèves et par nos manifestations, ça paraît effectivement loin. Ça paraît difficile. Ça paraît, eh bien oui, vraiment un grand pas à faire. Jean-Luc Mélenchon, pour lui, c'est plus facile. Quand il explique que c'est lui, hein, qui va, augmenter les salaires de 15-20%, quand il fait croire qu'il suffit de bien voter pour, obtenir des améliorations au quotidien, c'est plus facile. Mais moi, j'appelle ça, eh bien, véhiculer des illusions. Hein.
Il ment, c'est un bon
Jean-Luc
mieux.
Mélenchon, c'est un bon marchand d'illusions. Voilà. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, il est sur les pas de Mitterrand. Un Mitterrand qui avait suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme, qui avait expliqué aux travailleurs que s'il était élu, il allait changer la vie des travailleurs, qu'il allait même faire une rupture avec le capitalisme. Mitterrand, il avait effectivement suscité énormément, énormément d'espoir et il avait réuni autour de lui. Et finalement, qu'a-t-il fait une fois au gouvernement? Eh bien, il a cédé à la pression patronale. Et moi, je crois que c'est en réalité ce que fera tout prochain gouvernement hein, qui sera élu demain. Il sera sous le diktat des grandes puissances et
Mais
Mélenchon comme les autres.
Mélenchon, il y a une différence avec Mitterrand, c'est que lui a rompu avec le Parti socialiste et de façon brutale quand même. Vous pensez que c'est un socialiste masqué, en gros, c'est ce que
Mais
vous
il ne
dites.
s'en cache pas, il se revendique socialiste
Non, il dit qu'il a rompu avec le
avec
parti
le
quand même.
Parti socialiste, mais lui, il se range de. Il est socialiste, c'est ça son identité. Il a effectivement créé un nouveau parti de gauche, mais il le dit, écoutez, son modèle de gouvernement, c'est Mitterrand. Il ne s'en cache pas. Et il vante d'ailleurs tout ce qu'a fait le gouvernement Mitterrand, hein, en considérant que c'est vraiment le summum de ce que peut faire un gouvernement de gauche. Bon, bah, écoutez, nous, moi, ce que je vois, c'est que sa politique, c'est effectivement la politique de Mitterrand réchauffée. Alors, vous savez,
Enfin,
les.
le SMIC à 1700 euros, c'est quand même très
Oui.
différent de ce que demande François Hollande. Enfin, on est d'accord qu'il y a quand même des nettes différences entre ce que propose Jean-Luc Mélenchon et ce que demande François Hollande.
Bien sûr, il y a des nettes différences, bien sûr. Mais vous savez, en même temps que Jean-Luc Mélenchon a bien conscience qu'il y a peu de chances qu'il soit élu. Et que la réalité, c'est que ce sera Hollande qui dirigera. Et que, y compris les promesses que lui met en avant, il y a peu de chances que ça l'engage, puisqu'il ne sera pas, lui, élu. Alors vous savez, les 1700 euros. 1700 euros en fait brut hein, en début de mandat net comme il le promet. En réalité, c'est peut-être dans le programme de Mélenchon, mais ça ne sera pas appliqué par Hollande. Or, Jean-Luc Mélenchon quand même, que va-t-il faire? Et il l'a déjà annoncé, c'est le désistement républicain. Donc au bout du compte, il va amener toutes ses voix, tous ceux qui sont critiques vis-à-vis de Hollande, à faire élire Hollande. Voilà, à faire élire un prochain gouvernement socialiste qui ne fera pas effectivement le SMIC à 1700 euros.
Est-ce que donc, en raison de tout ça, vous prévoyez un troisième tour social, entre guillemets, comme on dit, et un automne difficile
Moi,
en France?
je n'utilise pas cette expression-là parce que justement, ça ne se décrète pas, ça ne se commande pas et ça ne se
Mais ça se
programme
sent.
pas. Des millions. Mais ce qui se sent, c'est qu'il y a des millions de familles qui aujourd'hui sont complètement bouleversées par le chômage, par ce fléau qui les ronge, par le fait de ne plus pouvoir joindre les deux bouts. Et ça, c'est le quotidien. Toutes les familles sont frappées aujourd'hui par le chômage et par la montée, bah, de l'angoisse. Hein, c'est l'angoisse du lendemain. Ils ne savent plus comment, ce qu'ils vont faire dans les mois à venir. Donc ça bouleverse, y compris les consciences. Bien sûr que je crois que la colère s'accumule chez les travailleurs, bien sûr. Et tôt ou tard, cette colère, elle explosera.
En raison
Il y aura des
notamment
mais.
des plans d'austérité
Bien
que
sûr,
vous
en
imaginez, que
raison
ce
des.
soit Hollande ou Sarkozy d'ailleurs.
Évidemment, hein, vous savez, quand l'un et l'autre nous disent qu'il va falloir payer cette dette, moi, ça me révolte d'entendre ça. Parce que cette
Pourquoi il ne faut
dette,
pas rembourser ses dettes?
si, mais. Rembourser ces dettes, celles qu'on a faites. Vous savez, les travailleurs, ils en font des dettes pour acheter leur voiture, leur logement, parfois même pour se soigner. Ils doivent rembourser, ils sont obligés de rembourser. Mais cette dette, ce n'est pas la dette des travailleurs. La dette de l'État, c'est la dette qu'a contractée les banquiers. C'est leur dette à eux, c'est la dette de ces grands groupes industriels qui se sont servis des caisses de l'État pour amortir leurs pertes, qui ont appelé l'État à l'aide. Et l'État a mis des milliards sur la table, des milliards pour les banquiers, des milliards pour les groupes de l'automobile. Donc moi, je dis que cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. C'est à eux de la rembourser. C'est ça, à cette bourgeoisie, à ces plus riches. Mais les travailleurs n'en sont pas redevables de cette dette. Et effectivement, la gauche comme la droite, de ce point de vue-là, ils nous préparent. Eh bien, des plans de rigueur, des plans d'austérité. Et c'est vrai que, eh bien, l'un comme l'autre, ils vont faire reculer les services publics, nous dire qu'il n'y a plus d'argent pour embaucher dans les hôpitaux, pour nous dire qu'il va falloir payer des franchises médicales.
Donc
Voilà,
c'est
l'un
la
comme
même
l'autre.
chose au soir du premier tour. Si, comme on le pense, ils sont face à face au second tour, pour qui appelez-vous à voter?
Ça sera le soir du premier tour que je déciderai. effectivement, que vous apprendrez ce que nous ferons. Parce qu'il y a cette campagne au premier tour à faire. Moi, je suis candidate et je tiens effectivement à défendre ma politique et justement à dire aux travailleurs que quel que soit l'élu, il faut s'attendre à prendre des coups. Parce que la crise, elle continuera. Et la politique patronale, elle sera toujours là. Vous savez, ces patrons qui ont eu un seul réflexe, qui a consisté à faire payer la crise, la petite baisse de commandes hein, qu'ils ont dû affronter aux travailleurs en sacrifiant leur emploi et leur salaire. Ça a été ça leur réflexe. Eh bien, ça continuera après le 6 mai 2012. Ça va continuer. Et est-ce qu'on peut imaginer une seconde être protégé, y compris par Hollande s'il est élu? Eh bien, moi, je dis que non. Et il faut qu'il n'y ait aucune illusion là-dessus. Et que les travailleurs sachent que quoi qu'il arrive, il va falloir qu'ils se préparent à se battre, à s'unir, à rassembler leurs forces pour faire valoir leurs intérêts,
Vous
leurs
donnerez quand même un mot
exigences.
d'ordre, dernière question. Vous
Eh bien,
promettez que vous donnerez un mot d'ordre quand même une fois le premier tour passé.
comme à chaque fois, le soir du premier tour, nous le dirons. Mais voilà, pendant cette campagne, je tiens aussi à dire et à faire entendre cette voix, eh bien, qui remet en cause ce qui dirige véritablement l'économie. Et c'est ce grand patronat, ce sont ces banquiers. Nous, nous disons quand même, vu les dégâts qu'ils ont causés dans cette crise, eh bien, il y aurait tout lieu de contester leur pouvoir et y compris d'exproprier ces banquiers, sans indemnité ni rachat, pour qu'on empêche que les banques se transforment en salles de casino, comme c'est encore le cas aujourd'hui.
Très bien, ben merci beaucoup Nathalie Arthaud d'être
Merci.
venue sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir assisté à cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.